vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 144. Gabriel Brauner, ite missa est. Chers amis, bonjour. Mais vous pouvez rester, hein. Vous savez qu'en latin, ite missa est, cela veut dire « Allez, on vous renvoie, la messe est dite, rentrez chez vous ». Ou comme dirait le druide alsacien le plus connu, le Saint-Père alsacien Roger Siffert, à la fin de ses spectacles, il dit « Barrez-vous ! » Eh bien, donc, restez à l'écoute de Radio Judaïka Strasbourg. Vous savez que notre émission, vous l'avez bien connue, se veut uniquement culturelle. On parle ailleurs des pratiques religieuses et de la politique. Eh bien, pour une fois, on va parler aujourd'hui de religion. Bon, on ne risque pas d'être orthodoxe et de vous ennuyer avec le bon Dieu hein, qui reste au ciel et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si joli. Mais puisque ce n'est pas un curé, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un imam, ce n'est pas un rabbin que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, c'est un archiviste, un historien, Gabriel Brauner. Bonjour Gabriel Brauner.
Bonjour.
Alors, avant de raconter votre long parcours dans les archives de Colmar, je voudrais citer votre dernière conférence. Elle est intitulée « Les dates essentielles de l'histoire religieuse en Alsace, des origines romaines au concordat napoléonien ». Alors, vous êtes toujours intéressé à l'histoire des religions ?
Pas nécessairement, mais enfin, comme tout historien, quand on est archiviste, je l'ai été 10 ans de ma vie, hein, il y a quelques temps déjà, mais je continue à les fréquenter. Ben, les archives vous obligent à une espèce de vocation universelle, vous intéressez à l'histoire sociale, politique, religieuse, et institutionnelle, administrative, en fait. J'étais archiviste d'une ville, donc. Que fait une ville ?
Colmar.
Colmar, oui, et eh bien tout simplement...
C'est dans le Haut-Rhin, je dis ça pour les Barinois.
Pour la petite histoire, j'étais un Barinois, je vous rejoins là.
Ah, vous êtes quand, en exilé. 1900,
oui, quand en 1971, je suis venu à Colmar, ben, je vous avoue franchement que c'était... J'y avais jamais mis les pieds.
Vous étiez au sud.
J'ai changé de continent.
Ah oui.
Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, c'est c'est un voyage, c'est incroyable. J'étais un hercalophone pour eux, c'est-à-dire un gars qui venait d'ailleurs. Et puis, c'était intéressant parce que très rapidement, je me suis planté. Le premier jour, je suis allé dans un restaurant pour manger, tout simplement, à midi. Le premier jour, hein, je ne connaissais personne à l'époque, et à Colmar. Et j'ai demandé une bière, mais je l'ai dit, alors je voulais la jouer un peu fin, et je l'ai dit en alsacien, j'ai dit « Mert Seidel », et c'était pas un Seidel, ça n'existe pas, à Pirme, mais le Seidel, c'est une mesure strasbourgeoise.
Ah oui, donc, alors comment compris. On dit les pommes de terre, c'est « Artzepfel » là-bas.
« Artzepfel », oui.
Et nous, c'est « Grumper ».
Tout bah, oui, fait, oui.
Mais alors, parce que déjà étudiant, alors avec le célèbre doyen oui. Georges Livet, ceux de notre génération le bon, connaissent à Strasbourg,
absolument.
Vous avez fait une maîtrise. Alors, à l'époque, on disait maîtrise, aujourd'hui,
oui, c'est
doctorat, enfin, ouais. C'est master 2 et tout,
ouais.
Sur, alors je cite votre texte, « La pratique religieuse dans la paroisse Saint-Thomas à Strasbourg au XVIIIe siècle ». Comment est-ce que vous avez choisi ce thème ?
Je ne l'ai pas choisi.
Ah ben oui.
Voilà, les grands patrons, les mandarins de l'université, ils avaient autour d'eux leurs élèves, et quand ils faisaient un mémoire de maîtrise,
oui.
Etc., il les amenait sur des sujets sur lesquels ils travaillaient. Ça permettait
oui,
de faire de brillantes synthèses.
Et donc, votre texte s'est retrouvé dans un de ces bouquins, je parie.
Oui, oui, enfin, pas le texte, mais des exemples. Alors, je vous l'explique en deux mots.
Oui.
Hein, on était deux copains qui nous connaissons depuis la sixième. Et puis, on était arrivés en terminale ensemble. On avait passé le bac, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On s'est inscrit en fac d'histoire, finalement, parce que on allait faire droit comme tout le monde, mais il y avait une telle queue à l'inscription de la fac de droit qu'on a choisi celle de lettres, il y en avait un peu moins. Et puis je me suis retrouvé, voilà, j'ai fait une licence, j'ai tapé un peu dans l'œil du doyen Livet qui enseignait l'histoire moderne, et puis un jour il me téléphone, j'avais fait ma maîtrise sous sa direction, et puis il me dit, avec l'accent qui était le sien, Brunner, il y a un poste d'archiviste qui se libère à Colmar, prenez-le avant que les curés ne l'apprennent. Ça a été le plus beau, comment dire, certificat d'embauche que certainement on a connu. Effectivement, je suis allé voir le maire de Colmar à l'époque, qui était Joseph Ray, Rayesepi, qui était une personne qui avait été résistant, maire depuis 47, là on se situe en 71. C'était son dernier mandat, et puis il m'a recruté, il m'avait trouvé sympathique, jeune, il m'a interrogé en alsacien, je lui ai répondu en strasbourgeois, mais c'était de l'alsacien quand même. Il m'a même tenté de faire un petit piège en me posant une question en allemand, je lui ai répondu du tac au tac en allemand. Il m'a amené à la porte ensuite, très sympa, très gentil, très paternaliste évidemment, et puis il me dit « Jungre, si je n'aurais, puis il y a encore un problème, jeune homme ». Et alors, bon, j'avais quoi? J'avais 23 ans à l'époque, j'étais assez chétif. Il me regarde et dit, Jung, mich nur ein bisschen soup ass, dans steps virsch, il faut que tu manges encore un peu de soupe afin que tu grandisses et que tu forces un peu. Voilà, c'est comme ça que, qu'à l'époque, non, mais c'était un peu ça. Et on pouvait être recruté. Et ma passion de l'histoire, bah, elle était guère plus ancienne. J'ai fait une fac d'histoire quelques années avant, comme beaucoup de gens. Je devrais le dire, je le dis d'ailleurs, c'est la lecture des Trois Mousquetaires qui est à l'origine, indirectement, je ne suis pas le seul.
Alexandre Dumas.
Alexandre Dumas qui est à l'origine de cette vocation. Et puis un prof d'histoire qui s'appelait Fronsac, à Fustel de Coulanges à l'époque, qui nous disait la chose suivante, et vous, que vous connaissiez, donc à partir de Strasbourg où nous étions, toute l'histoire des villes, des pays, etc., qui se situe dans un rayon de 1000 kilomètres. Donc voilà, c'est ça ainsi que les
choses... Est-ce que vous avez connu le philosophe Émile Bass ?
J'ai connu le philosophe Émile Bass, mais j'étais l'élève de l'autre philosophe qui enseignait à Strasbourg à l'époque, c'était André Tuboeuf.
Ah,
qui est personnalité...
Oui, qui est devenu, qui a écrit tellement de bouquins.
Oui, sur la musique sur... Oui, j'ai été un élève et je crois bien que je m'en souviendrai toute ma vie. Il nous a donné confiance. Moi, j'ai passé mon bac en 66, donc j'étais en terminale 65 à 66. Le souvenir, je lui suis resté fidèle. J'ai acheté tous les bouquins qu'il a sortis. Il avait une chronique aussi de musique et d'opéra au DNA.
Aux dernières nouvelles, oui,
Tuboeuf. Et je lisais tout, parfois je découpais. Je l'ai revu qu'une seule fois, mais ça fait rien. C'était...
Oui. Alors, c'est l'époque où on relisait la psychanalyse de l'Alsace de Hoffet.
Oui, absolument.
Et Émile Bass, lui, il avait écrit Situation de l'Alsace, qui montrait justement cette. Alors, on va en parler au cours de cette émission. Cette ambiguïté des Alsaciens, peut-être à cause de la religion. On va revenir sur l'identité. Je dis juste, Émile Bass, c'était mon tonton. Enfin, le tonton de ma maman.
Voilà. D'accord.
C'est pour ça que, en Alsace, on dit quand on parle de quelque chose, c'est une grande historienne, mais alors actuelle, Frédéric Naudufour.
Que je connais bien.
Vous connaissez
bien. Ah, oui.
Et qui dit toujours, quand on parle avec un Alsacien, on parle un peu d'histoire, ils vous disent toujours, ah mais moi, dans ma famille, je connais... Ah moi aussi, j'ai le frère de mon oncle qui était malgré nous, et puis je connais...
On est tous comme ça. C'est ça l'Alsace, c'est bien
entendu. C'est ça. Alors, dans vos conférences... donc sur l'histoire de la religion en Alsace de Jules César au Concordat, parce que Jules César a vécu en Alsace.
Bien sûr.
Est-ce que vous parlez des catholiques, des protestants, des juifs ?
Écoutez, je vais vous donner... je ne suis pas le spécialiste de l'histoire des religions, mais je suis un obsédé de la pédagogie, parce que j'estime qu'en Alsace, on parle beaucoup de notre histoire, mais souvent, mes amis alsaciens, dont je suis, me disent... Écoute, on ne tient pas 10 minutes. Est-ce que tu peux nous faire un jour...
Un résumé.
C'est une commande qui a une dizaine d'années, un peu plus, dans un club service très connu. Le Rotary, pour ne pas le citer, il y a un Rotarien qui me dit, disons, Gabriel, j'avais fait, une conférence sur un sujet d'histoire alsacienne.
Voilà.
D'histoire alsacienne, pas sur l'histoire de l'Alsace. Tu ne pourrais pas nous faire une synthèse. J'ai fait une synthèse, parce que faire une synthèse en une heure, enfin, qui dure une heure à l'oral, Ça nécessite des connaissances vastes que progressivement vous réduisez, etc., pour dire l'essentiel.
Il faut du temps pour faire court.
Exactement. Et à partir de ce moment, c'est une conférence, c'est certainement une de mes conférences qui marche le mieux dans toute l'Alsace du Nord-Sud, chez les hommes politiques à qui je remets de temps en temps le texte, parce que ça permet en une heure de dire l'essentiel. Et puis voilà, c'était ça, cette pédagogie-là que je fais depuis longtemps. Et puis, il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne charmante qui s'est avérée être une cousine que je ne connais pas.
De Wissembourg,
qui est venue me voir, parce qu'à ce moment-là, avec d'autres, je travaillais sur la guerre des paysans. C'était l'anniversaire. J'avais organisé un colloque en novembre 2024, juste avant les festivités, pour lancer ceci. Et il y avait dans la salle une personne qui voulait me rencontrer. C'était donc une Wissembourgeoise, Charlotte Schimpf, on a fait connaissance, on était ravis, et évidemment, de la famille, encore une. Et puis, elle m'a dit, je voudrais faire une exposition avec une association...
Amis du musée de Westerkamp.
Voilà, sur les ordres monastiques à Wissembourg. Et elle me dit, sachant que je suis historien, qu'est-ce que tu pourrais m'apporter, me faire ? Alors, j'ai rapidement réfléchi, je lui ai dit, écoute, moi je ne vais pas te faire un truc sur Wissembourg, tu as certainement des spécialistes, mais je vais resituer ça. Et c'est comme ça, c'est pas vieux, c'était avant Pâques l'année dernière. Alors j'avais évidemment déjà parlé de pas mal de points d'histoire religieuse, mais que je me suis dit, je vais leur faire une synthèse. Je vais essayer de leur faire une synthèse où je vais donner des dates et je vais essayer de montrer que du 3e siècle ou du 4e siècle, Jules César n'était plus de ce monde, mais c'était encore Rome, et jusqu'au Concordat, il y a peut-être des choses à dire, et surtout à rappeler. Et en même temps, en traitant de cette histoire religieuse, je me retrouvais sur mes terres, on traite de l'histoire d'Alsace.
Voilà.
C'est bien l'élément.
Donc, 3e siècle après Jésus-Christ, on les appelait comment ? C'était des druides ? Non, c'était...
Chez nous, ça dépend. On a certainement des... On sait que, par exemple... Ouais, on a eu des druides, y compris d'ailleurs sur un autre sujet que j'aime bien, parler du Mont Saint-Odile, le mur païen pourrait, je dis bien pourrait, parce qu'on n'est jamais toujours d'accord sur ce sujet, mais oui, on a une population celte, on a une population païenne, et ça n'est pas seulement la romaine, et nous sommes quand même une terre où les Alamans étaient venus aussi dès le 3e siècle, donc ils se sont battus contre Jules César, qui était là, puisque la présence romaine est attestée un peu avant l'an 1000 déjà, et donc voilà... avant l'an 0, qu'est-ce que je raconte ? Etc. Donc, effectivement, l'origine...
Et alors, dans votre synthèse, vous parlez de toutes les religions ? Alors, les catholiques, les protestants plus tard, et la place des juifs, très importante.
Absolument. Ce jour-là, c'était une introduction sur l'histoire chrétienne de l'Alsace. Et puis, en une heure, je me suis bien rapidement vu, ce n'est pas la première synthèse que je fais, c'est que lorsqu'on parle un peu de l'histoire religieuse de l'Alsace, en ne pas oubliant la communauté juive, quand on arrive à la Réforme, on recommence. C'est-à-dire, si on veut parler correctement de la Réforme protestante et l'amener jusqu'au Concordat, c'est quasiment une deuxième histoire, à côté de l'histoire catholique, etc. C'est passionnant et c'est assez lourd.
Oui.
C'est assez lourd.
Alors, qu'est-ce qui est lourd ? Gabriel Brauner, je vous propose d'aller au Moyen-Âge. Alors, j'ai lu Georges Duby, le prêtre, voilà.
Ouais.
On voit que l'influence de la religion sur la vie quotidienne de la population est terrible. C'est la peur du diable.
On va commencer par des choses positives, si vous le permettez.
Ah bon ? D'accord.
La peur du diable, on est d'accord, mais la peur du diable... Elle va exister tellement longtemps. Luther avait peur du diable et d'autres encore. Les sorcières sont encore plus récentes, puisque quand on a eu, pensant s'émanciper, l'humanisme, quand on a eu la réforme qui était déjà un progrès par rapport à une espèce d'engourdissement du catholicisme, on a eu la chasse aux sorcières, ce qui montre bien qu'au XVIe siècle, on a fait un pas en avant, deux pas en arrière. Alors je reviens à votre question. Non, la religion à ce moment-là, c'est d'abord une progressive évangélisation qui se passe probablement avec les moines, hein, parlons-en, oui. Des moines irlandais, hein, qui sont venus de l'Ouest et qui sont progressivement, on pense surtout à un personnage qui a laissé des traces indirectes, c'est Colomban, le fameux moine irlandais qui s'est installé au 6e siècle, au début du 6e, oui, au 6e siècle, à Luxeuil, et qui de Luxeuil a commencé à essaimer,
se propager,
et puis etc. Puis ensuite, donc, il y a la part donnée par ces fondateurs de monastères qui n'ont pas encore d'ordre, pardon, de règles bien, bien établies. Hein. Saint-Benoît, c'est certes le 6e siècle aussi, hein, et donc la règle de Saint-Benoît, le temps qu'elle s'installe. Parallèlement, en Alsace, on a ces règles colombaniennes, comme on dit, et ensuite bénédictines. Mais tout ça, c'est...
Oui, et puis de très nombreux ordres, alors les Augustins, les franciscains,
non, là, ça c'est plus tard. Juste attention, les bénédictins, c'est le point de départ. Hein.
D'accord.
Donc, les bénédictins, on va les garder, on les garde longtemps, on les a encore, mais les bénédictins... et vont être, comment dire, en quelque sorte...
En gros, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac.
Non. Ce sont des ordres qui vont évangéliser, mais qui partent à partir de monastères. Or, les monastères sont dans la campagne, dans la cambrousse. Hein. Il ne faut pas les chercher en ville, il n'y a presque pas de ville déjà, hein, en Alsace à ce moment-là. Ça, c'est la première des choses. Quand on parle des ordres urbains, quand on a des villes, et on a un paquet à partir du XIIIe siècle... ce qui va devenir les villes de la Décapole. Vous avez des ordres mendiants qui vont venir. Et là, vous avez les Augustins, vous avez les Franciscains, vous avez les Dominicains. Mais là, vous vous situez au XIIIe siècle.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu, dans l'histoire de l'Alsace, en 20 siècles, une période où la religion n'avait aucune importance, où il n'y avait pas de religion, où, disons, on n'embêtait pas les gens avec la peur du bon Dieu, avec ses contrôleurs sur Terre Non. Est-ce qu'il y a eu...
Moi, je crois que...
L'absence ne laisse peut-être pas de traces.
Oui, alors, nous aimerions bien être un peu mieux renseignés. Il est clair que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des traces d'un évêque de Strasbourg au IVe siècle, par exemple. Mmh. On ne connaît pas grand-chose sur la vie religieuse à ce moment-là. On la connaît ensuite par les monastères. Et on la connaît aussi parce qu'il y a un diocèse qui se met en place assez rapidement... au VIe siècle, c'est le diocèse, on va dire, de Strasbourg. Mmh. Souvent la tête des... Bon, mais l'organisation, la pratique même, elle va se faire progressivement. On peut très bien imaginer qu'il y a... on n'échappe pas au christianisme. Hein, ce sont des... on n'échappe pas au christianisme. Mais alors, parler d'intensité, de croyance populaire, il y en a. La mortalité est là, les épidémies sont là, l'espérance de vie est d'une espérance de vie relativement courte. Mmh. Hein, la rudesse et des mœurs, mais aussi du climat, font que nous avons des... on ne peut pas dire qu'on croule sous les sources.
Quand même, est-ce qu'on peut alors supputer le fait qu'il y ait eu des périodes où il n'y avait pas de religion ?
J'imagine qu'on peut le supputer tout de suite au début, dans les premiers siècles.
Plus tard, après le Moyen-Âge.
Non, je ne pense pas. Ce qu'on peut dire, et vous le savez très bien, c'est qu'on n'échappe pas à l'emprise de la religion, au moins, on n'imagine pas, on va prendre ça, au XVIe siècle, par exemple, où la réforme est introduite, mais aussi où l'humanisme, c'est une première phase d'émancipation, où l'homme devient un peu le centre de la réflexion, de la philosophie, etc., on n'imagine pas, à ce moment-là, un personnage, une personne qui puisse faire preuve d'athéisme, qui puisse faire preuve même de parler de doute. Il y a un roman que tout le monde connaît, qui est celui de Marguerite Yourcenar sur l'œuvre noire. Ah ben là, il y a Zénon, qui est un intellectuel de haut vol des Flandres, qui professe une forme d'athéisme, qui professe aussi la liberté de ne pas croire et d'adhérer.
Oui, mais c'est déjà presque une...
C'est pas possible.
Alors peut-être simplement par négligence ou par paresse, parce qu'on vit bien, et donc on risque de se faire mal voir par les voisins.
Est-ce que je peux me permettre... Est-ce qu'on vit aussi bien que ça?
Ah oui, 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 on vivait tellement mal. Oui, oui, voilà.
Alors, moi, je pense qu'il y a des gens protégés. Les protégés, c'est ceux qui ont déjà la possibilité d'assumer le boire et le manger, de manger à leur faim. Mm-hmm. Hein? Et c'est le cas, je m'intéresse un peu à la période mérovingienne actuellement, qui est les ducs d'Alsace, 650-750. Voilà. Odile, Saint-Odile. Ce sont ces ducs d'Alsace, des aristocrates, membres de l'aristocratie franque.
Donc ça veut dire un peu prospère. Quoi.
Oui, et au moins assurant les fonctions essentielles. Ils sont peut-être frugaux dans leur appétit, et encore, ils chassent aussi, etc. Mais on ne peut pas dire que ce soit des gens qui vivent en dehors d'eux, tous ceux qui sont des manants, hein, des serfs. Hein, victimes du servage, je n'ai pas le sentiment qu'ils vivent sur l'or. Quelques années, quelques décennies plus tard, oui, quelques centaines d'années plus tard, oui.
Donc en gros, c'est la pauvreté aussi, et le fait qu'on soit tel, qui fait que la religion devient un recours
Je n'oserais pas arriver...
Je vais un peu vite, mais
c'est clair. Alors, je vais vous donner des exemples que je connais pour avoir travaillé, par exemple, sur la peste.
Oui.
Au moment de la peste.
60% de la population qui disparaît.
Je pense à 1349,
1349, oui. Bah,
écoutez, c'est à ce moment-là qu'on voit aussi, et puis dans toutes les pestes qui se sont déroulées par la suite en Alsace, c'est que plus de processions, plus de culpabilité,
et
plus
des boucs émissaires, c'est là où on a brûlé les 2000 juifs à Strasbourg.
Absolument, mais totalement, vous avez entièrement en phase avec vous. Ouais. On a besoin d'un responsable.
Alors justement, on connaît la complexité de l'identité alsacienne, hein, Gabriel Breuner, les frontières, les langues, les religions. Alors vous êtes aussi l'auteur d'un livre, et vous avez piqué le titre à Louis XIV en 1680, le titre du livre, je vous vois avec un œil interrogatif, c'est « L'Alsace, mon beau jardin », hein, c'est une référence explicite, où vous racontez la difficulté d'être fidèle à une religion. Est-ce que c'est cela, être alsacien, c'est d'avoir un caractère toujours fluctuant, d'avoir un pied d'un côté et puis l'autre de l'autre?
Je peux répondre?
Oui. Est-ce que j'ai mis la réponse dans la question?
Oui et non. Mais non, en fait, l'Alsace fait partie évidemment de le christianisme en Alsace, c'est important. Et puis le christianisme connaît une première belle césure avec l'arrivée de la Réforme. Et c'est cette double appartenance, je dis bien double appartenance, qui devient très rapidement un élément constitutif de notre identité qui dure toujours. Hein. C'est ça. On ne passe pas d'une religion à l'autre, du moins c'est l'impression que votre question m'a donnée. Mais on est membre de ceci, on est membre de cela. Et il est clair que le fait religieux, le fait religieux issu de la Réforme, mais aussi les consolidations, les résistances, catholiques, protestants, réforme contre réforme, Alsace de Louis XIV, catholicisme, religion d'État, avec cette, où les protestants qui avaient pris un peu le pouvoir et les postes importants sont obligés de nouveau de faire marche arrière.
Oui, mais Louis XIV a été quand même très tolérant avec les protestants.
Alsacien.
Alsacien, ah
il
oui.
Il n'y a pas de révocation de l'édit de Nantes en Alsace alors qu'elle existe,
oui, justement.
Évidemment.
Oui.
Totalement d'accord.
Oui. Est-ce qu'en Alsace, on pouvait avoir... Alors, on peut avoir deux passeports, hein, c'est récent, mais on peut être français et allemand, ou on peut être, voilà, maintenant...
Mais on n'est pas catholique et protestant,
on peut pas être
sûr,
les deux.
Sûr.
Non. Et on peut pas... Non.
Non.
Il n'y a pas de carte de membre pour changer, ou si vous avez envie d'être juif, parce que vous trouvez ça intéressant.
Je pense que les questions ne se posent pas comme ça à l'époque,
en tout cas.
Les choses sont tranchées, hein, je vous parle quand même.
Oui, mais aujourd'hui, en 2026...
Ah, aujourd'hui se pose d'ailleurs la question, quand on dit qu'on est catho, qu'on est protestant, qu'on est juif, se pose la question de savoir si c'est une appartenance sociologique plutôt qu'une adhésion religieuse.
Oui.
Parce que quand vous voyez le nombre de gens qui sont soit dans les paroisses protestantes, soit chez les cathos qui sont dans les églises sont à des moments évidemment particulièrement visités, mais 9 fois sur 10 vides. Hein, oui, et donc, oui, soyons clairs aussi. Et donc, le terme de religion, en l'occurrence, oui, ça reste. On a été, après la guerre encore, on allait à l'église. Moi, j'étais enfant de cœur. Et puis, un beau jour, ben, regardez le nombre d'enfants de cœur. Je rigole ou je plaisante.
Moi aussi, j'étais enfant de cœur. Mais... Et vous le connaissez avec l'abbé Bourg de Haguenau.
Oui, alors, l'abbé Bourg, historien.
Historien, oui.
Grand historien, d'ailleurs.
C'était formidable d'être avec lui parce que la messe, ça durait moins d'une demi-heure. Il fallait vite qu'il rentre dans ses cailloux, ses silex.
Pour confidence, j'avais repéré un jour à Colmar qu'il y avait, enfin je le savais assez rapidement, qu'il y avait une communauté de jésuites, petite communauté de jésuites. Et puis comme beaucoup d'Alsaciens, quand à l'époque j'allais au culte du Vendredi Saint, je trouvais que Vendredi Saint avec la lecture de la Passion, etc., etc., c'était long. Oui. Et donc j'ai trouvé, je dirais, la forme la plus concise, avec le serment le plus concis aussi, dans la communauté jésuite, ce qui ne m'étonne pas, connaissant un peu l'histoire des jésuites, ils avaient réussi même de ce côté-là à rendre l'affaire supportable.
Ah ben voilà. Alors moi j'étais catho parce que mon papa, il adorait chanter en grégorien, même s'il était un bouffeur de curé terrible, ça c'était après la guerre. Ouais. Et alors, je faisais un truc quand j'étais enfant de chœur, je peux avouer mon péché maintenant, je mettais James Bond à la place du missel. Donc vous imaginez, sous l'aube, heureusement elle était ample, mais voilà. Donc, alors, c'est une petite conclusion comme ça, un peu pour rigoler, pour se moquer des religions. C'était l'épisode numéro 144 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg, Gabriel Brauner, Ite et Missa Est. Alors, dites-moi, monsieur l'archiviste historien, vous n'avez jamais pensé à être prêtre ou pasteur ou rabbin, hein, puisqu'on peut...
Oui, alors, non.
Non.
Non. D'abord, dans ma famille, j'avais un oncle qui était curé, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps. Il a déjà dépassé les 100 ans. Vous ne trouvez pas... Non, non, je n'ai jamais songé à cela. Ceci mis à part, je dirais, le fait religieux, la richesse religieux en Alsace m'a jamais laissé indifférent.
Non.
Ça, c'est clair.
Est-ce que, alors, si je peux poser une question personnelle, vous avez la foi, comme on dit ?
Alors, vous permettez que je termine par, non pas une ellipse, mais en vous disant ce qui m'est arrivé, comportement très conventionnel, convenu, jusqu'à 20 ans, mais 68 est passé par là. Mm-hmm. Donc, une espèce d'indifférence, voire d'hostilité pendant pas mal de temps. Et puis, le catho que j'ai été avait évidemment une éducation catholique, mais il n'en était plus nécessairement le meilleur témoin ou le meilleur acteur. Et voilà que je suis revenu à cela, mais ça mériterait presque une autre émission, parce que c'est passionnant. Les voix du Seigneur sont certainement impénétrables.
Mais sauf dans le studio de Radio Judaïque à Strasbourg.
Bien sûr. C'est un protestant, Albert Schweitzer, qui m'y a fait revenir.
Ah ben.
J'ai lu tous ses sermons, alors que je pensais que c'était une vieille baverne. En 68, c'est ce qu'on pensait de lui, néocolonialiste et qui ressemblait au missionnaire de Tintin au Congo.
Bon,
c'est comme
écoutez,
ça que je suis revenu.
Il est minuit, non mais il est l'heure, Gabriel Brauner. C'était l'épisode numéro 144, Ite et Missa Est. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. À la technique, Thomas Marinelli et mon nom, Dominus Vobiscum, c'est Ambroise Perrin.